Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Allez, comme chaque semaine, on va décrypter, comme chaque samedi d'ailleurs, on va décrypter l'actualité dans le Pacifique avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on commence avec un nouveau gouvernement qui est attendu en Nouvelle-Calédonie. C'est la conséquence de la victoire de Philippe Dunoyer aux législatives.
Récemment élu député de la première circonscription, Philippe Dunoyer doit en effet quitter le gouvernement en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats. C'est ce samedi qu'il doit démissionner, ce qui entraîne la chute du gouvernement et ce qui pourrait être l'occasion de rebattre les cartes pour la chaîne NC Première. Les alliances et mésalliances des législatives sont susceptibles de déclencher une nouvelle bataille politique. Rappelons qu'après la chute du gouvernement Lijard fin 2014, il avait fallu attendre 3 mois et demi avant que la situation ne se débloque et que Philippe Germain ne soit porté au poste de président du gouvernement. L'actualité en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la sécheresse qui sévit depuis plusieurs jours et a entraîné des feux de brousse à Poya et Kumak, notamment dans le nord de l'île. Aucune habitation n'a été menacée, mais des dizaines d'hectares sont partis en fumée. Le gouvernement a donc décidé d'activer le niveau 2 du plan hors sec feu de forêt avec un renforcement des secours sur place et la population est appelée à économiser l'eau. Bonne nouvelle en revanche du côté du porte-conteneur échoué sur un récif au large de la Grande Terre, au sud de l'île de Marais. Les opérations de pompage du fioul ont pris fin. 30 jours après son échouement, la phase d'extraction des hydrocarbures du quai à Trader est terminée, a ainsi annoncé le haut-commissaire de la République Thierry Lataste, qui se réjouit que le risque de pollution le plus dangereux soit désormais écarté. Mais il reste beaucoup de travail. Les opérations de transbordement de conteneurs se poursuivent pour alléger le navire. En milieu de semaine, 17 conteneurs ont ainsi été déchargés au port autonome de Nouméa. Il faut savoir qu'il y avait en tout 700 caisses à bord, dont 130 pour la Calédonie. Et puis, il peut être difficile de trouver des médicaments en ce moment sur le Caillou. Les pharmaciens sont en grève. Un mouvement de grève générale qui a débuté lundi. Le syndicat des pharmaciens a 2 revendications. L'arrêt immédiat du gel des prix des médicaments et la mise en place de la nouvelle formule de prix. Le mouvement est suivi par de nombreuses officines libérales, mais les pharmacies de garde continuent d'approvisionner les patients et le gouvernement a pris un arrêté pour que, le temps de la grève, les mutualistes délivrent des médicaments à toute personne munie d'une ordonnance.
Petite agitation sociale aussi cette semaine en Polynésie française.
Un préavis de grève a été déposé par une intersyndicale auprès de la direction du groupe VAN, qui possède des enseignes dans la grande distribution, mais les 5 syndicats n'ont apparemment pas réussi à s'entendre et le préavis a été suspendu. Les demandes sont nombreuses, augmentation de salaire, revalorisation des primes de départ à la retraite ou encore uniformisation de la durée des droits à congé annuel. Ce préavis de grève a surtout été l'occasion de se rappeler du poids du groupe VAN en Polynésie française. L'homme d'affaires Louis VAN possède en tout 8 sociétés, dont les hypermarchés Carrefour et les magasins Champion. Il possède aussi des hôtels à Bora Bora. Son groupe représente près de 12% du PIB du territoire. On reste en Polynésie, on nous reparle d'un projet de ferme aquacole à Hao, un atoll des Tuamotu. Ça fait des années que le projet est lancé, mais rien n'est encore construit. La ferme aquacole doit s'étendre sur près de 32 hectares au milieu des 150 000 tonnes de terre polluées par les essais nucléaires. Ces terres ont depuis été remblayées ou enfouies. Et c'est donc là que l'entreprise chinoise Teitinui Ocean Foods veut produire plus de 50 000 tonnes de poissons par an destinés à l'exportation. Une délégation chinoise de l'entreprise est en ce moment à Tahiti pour participer à des réunions de travail avec le gouvernement et les services techniques du pays. Ils se sont rendus aussi à Hao. Le projet va donc bel et bien se concrétiser d'après les autorités, mais aucune date de démarrage des travaux n'a encore été annoncée. À la une aussi cette semaine en Polynésie française, la rentrée des classes. Il faut préciser que l'éducation est une compétence partagée. Le gouvernement polynésien et le gouvernement central travaillent ensemble. Et cette année, l'une des priorités du vice-recteur peut surprendre. Il veut lutter contre l'absentéisme des professeurs. Il évoque la mise en place d'un observatoire et la remise à plat de la méthodologie de remplacement de ses enseignants. Et à propos d'éducation, à Wallis et Futuna, le programme scolaire 2020 2012-2017 arrive à échéance. Le prochain se prépare donc et il est question notamment de la place de l'enseignement des langues locales, de l'histoire et des cultures du territoire, comme le rapporte la chaîne Wallis et Futuna Première. Le bilinguisme est présent depuis de nombreuses années dans les petites sections. Syndicats et parents d'élèves voudraient que cet enseignement bilingue soit renforcé et qu'une part plus importante soit faite à l'apprentissage de l'histoire de l'archipel. Toujours à Wallis et Futuna, la station essence de Hihifo a rouvert. Ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas à Wallis où il n'y a que deux autres stations essence. Après un an de fermeture dû à des problèmes de gestion, les automobilistes ont donc de nouveau une troisième option, ce qui permet aussi, comme le fait remarquer la première, de désengorger les deux autres stations essence de Wallis qui étaient régulièrement à sec. Restons à Wallis qui a perdu entre 30 et 40% de forêt en l'espace de 15 ans, d'après une étude de l'ONG Conservation Internationale. C'est ce que rapporte Wallis et Futuna Première. Cette disparition s'explique par des raisons climatiques, les défrichements des agriculteurs, la présence de certaines espèces animales envahissantes et de plantes invasives. Une mission du service environnement est à l'œuvre. L'objectif est de faire un inventaire précis de la forêt afin d'établir une gestion plus rigoureuse de la ressource.
Et puis maintenant, pour conclure cette rubrique, coup de projecteur sur l'un des plus importants rendez-vous de l'année en Calédonie, la foire de Bouraille. Cette année, elle fête ses 40 ans.
Cette foire agricole et artisanale rassemble chaque année près de 20 000 visiteurs. Elle a eu lieu le week-end dernier dans la plaine de Téné. L'une des attractions phares de cet événement, ce sont les concours de rodéo. Une soixantaine de personnes y ont participé cette année. Des équipes sont venues de Wailou, d'Imbéa ou encore Bouloupari. Il y avait même des amateurs australiens. De nombreux exposants étaient aussi présents et c'était l'occasion pour les visiteurs de goûter au fameux saucisson de cerf. L'objectif de la foire, c'est de rassembler les broussards et les citadins. Et cette édition anniversaire a été une réussite sur ce point. Et puis du côté de la Polynésie française, l'événement, c'était la compétition de surf sur le célèbre spot de Teahupo. Compétition du circuit mondial avec les meilleurs surfeurs de la planète. Contrairement à d'habitude, la compétition a été vite expédiée puisque d'après les prévisions, les meilleures conditions, c'était les trois premiers jours. Et c'est vrai qu'il y a eu de belles vagues, de beaux tubes pour les surfeurs. Le Tahitien Michel Bourret, actuel 13e au classement mondial, a été éliminé au troisième tour. Il n'a encore jamais gagné à domicile. C'est un Australien, Julian Wilson, qui s'est imposé. Il a battu en finale le Brésilien Gabriel Medina.
Voilà, merci Élodie d'avoir décrypté l'actu du Pacifique pour nous cette semaine.
Merci, à la semaine prochaine.